France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
En 1991, Arlette Dave et Anis Clément proposaient un profil perdu en deux volets consacré à Victor Bache. Comme on peut l'entendre dans la première de ces deux émissions que nous diffusons cette nuit, si beaucoup de rues portent son nom, Victor Bache reste très et trop mal connu au-delà des cercles intellectuels et universitaires. Co-fondateur de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen, qu'il présida pendant 18 ans, Victor Bache aura pourtant été, depuis l'affaire Dreyfus, en première ligne de toutes les réflexions et de tous les combats de notre histoire pour la liberté et la justice, jusqu'à son assassinat par la milice en 1944. L'émission que nous allons entendre revenait sur les engagements et l'œuvre de cet intellectuel brillant et lucide que l'antisémitisme de son temps aura tué, sans pour autant jamais parvenir à l'intimider. Profil perdu, Victor Bache, première partie, une émission diffusée la première fois le 7 mars 1991, dans laquelle on entendait l'historienne Madeleine Reberioux, la philosophe Elisabeth de Fontenay, l'essayiste Daniel Linderberg, Lydia Campolonghi, l'historien Christophe Charles et Bernard Vallon de la Ligue des droits de l'homme.
Profil perdu, Victor Bache, 1863-1944, par Anis Clément et Arlette Dave. Impossible de dissocier la vie de Victor Bache de son engagement politique au sein de la Ligue des droits de l'homme, car c'est là que son humanisme, épris de justice, de liberté, c'est là que son idéalisme républicain et son esprit démocratique vont s'épanouir. Pendant plus d'un demi-siècle, Victor Bache se battra contre l'intolérance idéologique et religieuse, contre les iniquités sociales, les discriminations raciales. Inlassablement, il travaillera à la cause de la paix, condamnant les fascismes, les régimes totalitaires, les cruautés morales et physiques imposées au peuple asservi. De l'affaire Dreyfus à son assassinat par la milice en 1944, Victor Bache sera la cible douloureuse, intolérable, de l'antisémitisme. À côté du militant, Victor Bache était un esprit curieux, épris de beauté. Sa sensibilité a fait de lui un professeur exceptionnel. Mêlant philosophie et littérature, esthétisme et politique, Victor Bache concentre en lui les aspects d'un penseur, d'un militant et d'un artiste. Victor Bache naît en 1863 à Budapest. Très tôt orphelin, l'enfant est adopté par le journaliste Raphaël Bache. Daniel Lindenberg, dans quel milieu, dans quel climat a été élevé l'enfant Bache ?
On peut dire qu'il a été élevé dans le climat qui est celui de l'apogée de la Vienne libérale des années 70 ou 80 du 19e siècle, c'est-à-dire un lieu où on a encore l'espoir, en particulier si on est juif, comme c'est son cas, que le progrès et l'émancipation qui ont été apportés par la Révolution française du 19e siècle vont se poursuivre encore indéfiniment. Et d'autre part, c'est effectivement un grand lieu de culture cosmopolite, mais surtout surtout allemande. Et on peut dire que Victor Bach donc a connu, a sucé avec, on peut dire, avec le lait de sa mère, toutes ses grandes idoles, Kant, Beethoven, Schiller, etc. Et aussi l'avant-garde viennoise ou allemande de son temps, parce que c'est un homme, et ça c'est sans doute lié à son milieu familial, qui sera toujours tourné quand même vers ce qui est neuf culturellement, et donc ça c'est un peu contraire, disons, à l'image poussiéreuse qu'on peut avoir de ces universitaires Dreyfusards. En tout cas, c'est pas le cas de Victor Bach, qui, bien qu'il va devenir un des grands maîtres de l'université française, sera toujours intéressé par ce que l'université souvent ne connaît ou ne reconnaît pas.
Son père était correspondant d'un journal en France.
Oui, c'est le journal de l'intelligentsia, justement libérale, progressiste, viennoise de son temps. C'est la Neue Freie Presse, la Nouvelle Presse Libre. C'est un journal qui a une extrême importance. D'abord parce que c'est très lu, c'est un journal qui s'étend sur l'Europe entière, qui est ouvert en particulier à l'avant-garde parisienne, et puis c'est un journal qui symbolise un peu, dans le climat de montée de l'antisémitisme qui va être celui de l'Autriche, le pouvoir un peu des Juifs sur ce qu'on appellerait aujourd'hui les médias. Enfin, à l'époque, on parle de la presse, etc. Donc c'est très important parce que ça explique que son père, il vient à Paris, c'est pas un journaliste quelconque, il est très introduit dans les milieux politiques et littéraires. Par exemple, alors que son fils est le fils d'un correspondant étranger, va entrer à Condorcet, qui est le lycée de l'élite parisienne, qui est le lycée de Marcel Proust. Il n'est pas du tout un marginal d'emblée. Il participe à cette révolte, un peu vague encore, qui est celle de toute une jeunesse intellectuelle, surtout sur le plan littéraire. Il y a ce qu'on appelle le symbolisme, le début du symbolisme, et c'est tout un milieu de jeunes poètes, d'écrivains, d'artistes, qui vivent en dehors des conventions, qui aiment choquer le bourgeois. Enfin, c'est une tradition, effectivement, qui est assez déjà ancienne, qui remonte au romantisme. Bon, par exemple, Victor Bach fait partie du club des hirsutes. C'est un de ses mouvements, etc. Donc, avant d'être politiquement engagé, il est très engagé dans cette avant-garde, disons, littéraire, montmartroise, on peut dire. En fait, ce qui intéresse Victor Bach, c'est justement l'accomplissement individuel, le héros. Enfin, c'est pas par hasard que plus tard il fera un livre sur Carlyle, et où il va s'intéresser beaucoup au théâtre d'Ibsen. Sa révolte le conduit à l'affirmation du moi et non pas justement à cette espèce de fascination par le néant. C'est pas Barrès, les gens comme ça. Enfin, c'est son esthétisme qui est certain, ne le conduit pas à d'autres réalisations du symbolisme. C'est un milieu. C'est ça qui va le lier d'ailleurs à des gens. Qui retrouvera lorsque le moment de l'engagement politique vrai sera venu.
Victor Bach est à la fois typique et atypique dans le contexte universitaire de cette époque. Atypique puisqu'il est d'origine allemande, atypique puisqu'il est juif. Et à l'époque, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un contexte de développement de l'antisémitisme. Le livre de Drumont, qui va avoir un très grand succès, La France juive, est paru dans ces années de 1880. En dehors de ce contexte d'antisémitisme, nous sommes aussi dans une période de faste pour l'université française, puisque les républicains ont décidé de faire une réforme de l'université française pour que l'université française soit alignée un peu sur le modèle de l'Allemagne, c'est-à-dire une université où on ne se contente pas de faire des cours, mais où on fasse aussi de la recherche. Et Victor Bach, par sa spécialité, qui est la littérature allemande et aussi la philosophie, va profiter de ce contexte favorable, puisque dès sa sortie de l'agrégation d'allemand, il est nommé maître de conférence, donc, dans l'enseignement supérieur à Nancy.
Victor Bach ne restera que peu de temps à Nancy, et en 1887, il est nommé à la faculté des lettres de Rennes, Christophe Charles.
Oui, alors est-ce que c'est une promotion ? Pas vraiment, puisque Rennes, à l'époque, est une ville assez provinciale, au mauvais sens du terme, c'est-à-dire une ville assez casanière, assez conservatrice, où ceux qui tiennent le haut du pavé, ce sont soit les gens qui appartiennent aux congrégations religieuses, où il y a de nombreux couvents, soit les gens qui dirigent l'armée, puisque c'est une ville de garnison. Évidemment, ce n'est pas un contexte intellectuel très favorable pour innover dans l'enseignement supérieur de cette époque. Autre handicap pour Victor Bach, c'est évidemment ses origines autrichiennes, enfin hongroises, et son, tout le monde le sait à l'époque, le fait qu'il est d'origine juive, donc dans un contexte antisémite, c'est aussi un handicap. Et au moment de l'affaire Dreyfus, on va le voir, ça sera un des arguments de ses adversaires pour dénoncer son action.
Alors quel genre de professeur il a été à Rennes ? On lui a fait beaucoup de reproches.
Oui, bien justement, ça dérangeait beaucoup les gens que l'université ne se contente pas de transmettre une culture classique, traditionnelle. Étant donné qu'il est professeur de littérature allemande, justement, il ouvre à la jeunesse de l'époque de nouveaux horizons. Il fait des cours notamment sur Nietzsche, il fait des cours sur Ibsen, donc il ouvre la culture classique sur une culture nouvelle, une culture qui vient de l'étranger. Et il ne faut pas oublier, nous sommes dans un contexte d'antagonisme profond entre la France et l'Allemagne, donc s'intéresser à la culture de l'ennemi, ça peut paraître tout à fait attentatoire au patriotisme.
Donc il n'est pas très heureux comme professeur à Rennes.
Non, il est isolé d'abord. Le milieu universitaire est très étroit dans cette ville. Le reste de la bourgeoisie est hostile puisqu'elle est très liée à l'église et très liée à l'armée, donc tout à fait hostile à ce type d'action intellectuelle telle que l'entend Victor Bach. Et donc les universitaires qui sont ouverts justement sur le progrès, sur cette nouvelle culture, sont obligés un peu de vivre en vase clos. Dès 1898, donc au moment où l'affaire Dreyfus prend son côté public, son côté politique, il va être parmi les premiers signataires de ce qu'on a appelé le manifeste des intellectuels, c'est-à-dire cette pétition qui demande qu'on révise le procès de Dreyfus, pétition qui avait été publiée à la suite de la publication dans l'Horreur de la fameuse lettre de Zola, J'accuse, et qui donc était une façon de relancer l'affaire Dreyfus pour lui donner un tour public. Donc il est parmi les premiers Dreyfusards, ceux qui vont se faire appeler les intellectuels. Et la seconde action qu'il a, c'est de fonder justement, à l'instar de ce qui se passe à Paris, une section de la Ligue des droits de l'homme de Rennes. Alors vous imaginez que dans le contexte qu'on a décrit, c'est-à-dire de profonde hostilité à tout ce qui est étranger à la ville, à tout ce qui est non français, fonder une section de la Ligue des droits de l'homme, ça ne va pas sans mal. Et qui trouve-t-on dans les premiers adhérents? Enfin, il le raconte lui-même dans certaines conférences. On trouve les professeurs de la faculté des lettres, un professeur de la faculté des sciences, et puis quelques ouvriers, quelques instituteurs, enfin vraiment une petite élite qui essaye de défendre les idées des Dreyfusards, mais qui est évidemment noyée dans une masse violemment hostile à ces Dreyfusards. Alors la conséquence de ça, c'est que ces cours vont être perturbés par les étudiants antisémites, on le menace de mort, etc. Il y a des manifestations contre lui, on lance des cailloux contre ses vitres. Ses enfants eux-mêmes sont molestés au lycée, et même on fait pression pour qu'il les retire, parce que ça fait des scandales, évidemment, dans la classe. Mais le hasard veut qu'on va réviser le procès de Dreyfus à Rennes même. Donc c'est hasard de l'histoire qui font qu'il va avoir un rôle encore plus important, puisqu'il va être un peu la cheville ouvrière, le correspondant des Dreyfusards à Rennes.
Alors il va accueillir les journalistes, il va accueillir Jaurès, il va même les loger.
Et évidemment, ça ne va faire que redoubler l'hostilité contre lui dans la ville.
Mais quand on lit ce qu'il a écrit à cette époque-là, il est quand même très, très fort face à ces attaques. Presque serein, j'allais dire.
Oui, c'est un peu le sentiment qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, le dreyfusisme apparaît une cause gagnée, mais à l'époque, c'était absolument pas une cause gagnée. Donc pour se lancer dans cette bataille en étant minoritaire, en étant vraiment rejeté par tout le monde, il fallait vraiment un courage à la fois moral et physique considérable. Mais c'est un peu la fameuse phrase d'Anatole France, « Nous gagnerons parce que nous avons raison ». Donc c'est un peu un état d'esprit de croisé, un état d'esprit de témoin, un état d'esprit un peu de martyr.
En fait, il sera Dreyfusard toute sa vie, quoi, d'une certaine
oui,
façon.
Oui, tous les combats qu'il va mener par la suite sont dans le droit fil de ce choix premier. C'est un combat pour les droits de l'homme, et il sera président de la Ligue des droits de l'homme. C'est un combat contre la xénophobie, contre l'antisémitisme, qu'il a ressenti personnellement. Et c'est un combat aussi contre la haine de l'étranger, quoi, contre ce nationalisme étroit. Donc il y a vraiment une continuité profonde dans ce choix premier.
C'était Lazare, en effet. Lazare tel que le représente Giotto dans la sublime fresque de l'Arena. Au lieu de bandelettes, c'est un uniforme qui flottait autour du capitaine Dreyfus. Uniforme qu'il paraissait ne pas remplir, avec lequel il ne paraissait pas faire corps, et dont il était séparé, en effet, par des couches d'ouates destinées à masquer sa maigreur. Il s'avançait d'un pas raide, automatique. Sa figure était jaune et striée de rouge aux joues. Il se laissa tomber lentement, lourdement sur sa chaise. On avait la sensation que ce n'était pas un être vivant qu'on avait en face de soi, mais un homme revenu du pays d'où l'on ne revient pas. Ce n'était pas une voix humaine qui sortait du gosier, c'était une voix étrangement rauque, sans timbre, comme la voix d'un sourd-muet, la voix de quelqu'un qui pendant 5 ans n'avait pas parlé et ne savait plus parler. Il se produisit alors en moi un phénomène étrange. Moi qui jusqu'alors n'avais, à proprement parler, éprouvé aucun sentiment social, qui n'avais vécu que pour moi-même, mon enrichissement intérieur, pour ma science, pour mon enseignement, pour mes livres et pour ma famille, je me sentis transformé. Me dire que là-bas, agonisait dans les fers sous la double boucle, un innocent, j'ai senti comme une brûlure qui me dévorait tout entier. Il me devenait impossible de me livrer à mes occupations habituelles. La science, la poésie, l'art, certes, mais un innocent dans son île maudite se mourait dans la honte et le désespoir. Comment vivre avec la conscience de cette monstrueuse iniquité ? N'avais-je pas le devoir de sacrifier tout ce qui m'était cher, ma tranquillité, celle des miens, ma situation et jusqu'à ma vie elle-même ?
Madeleine Rebériot, comment fonctionne la Ligue des droits de l'homme et qui la compose dans les premières années de son existence ?
À la Ligue, il y a un président, à l'époque en 1909, c'est donc Francis de Pressensé. Il y a un secrétaire général. En 1909, le secrétaire général, c'est depuis la fondation de la Ligue, Mathias Morart, une personnalité incroyable, chrétien, pacifiste chrétien, tout à fait admirable, intransigeant dans ses opinions. Il y a donc un secrétaire général, un président, et les vice-présidents apparaissent donc en 1909. Et il fait partie de la première fournée des vice-présidents. La Ligue, à l'époque, a une quarantaine de milliers d'adhérents. Donc elle avait, entre 1998 et 1907-1909, acquis une véritable assise dans la société française. Elle fonctionne comme elle fonctionne aujourd'hui, sur la base de sections qui ont gardé jusqu'à aujourd'hui une très large autonomie à laquelle elles sont très attachées. Chaque section s'autodétermine. Et le recrutement de la Ligue, il se fait d'abord chez les intellectuels dreyfusards. Mais dès le début, à côté des intellectuels dreyfusards, qui sont eux-mêmes d'options politiques variées ou qui n'ont pas d'options politiques qu'ils énoncent, dans tous les cas, il y a d'autres gens. Dès le début, il y a eu, par exemple, des ouvriers au comité central de la Ligue. Recrutés plutôt chez les cheminots que dans le bâtiment, quand même. Donc, chez des ouvriers qui sont des ouvriers syndicalistes, oui. Mais l'essentiel, c'est qu'ils soient là à titre ouvrier, c'est-à-dire qu'ils fassent entendre la voix de la classe ouvrière dans un milieu qui est quand même essentiellement un milieu d'intellectuels, c'est-à-dire de médecins, d'avocats, d'universitaires. Puis, plus la Ligue s'implante, plus il y a une diversité du recrutement, à la fois diversité sociale et diversité politique.
Mais Victor Bache avait le souci de se rapprocher du monde ouvrier.
Il l'acquit dès 1898, puisqu'il explique à ce moment-là que si, en province en particulier, si la Ligue veut pouvoir tenir de véritables meetings dans lesquels elle dit la vérité sur l'affaire Dreyfus, elle se heurte à l'activisme des antisémites et des anti-dreyfusards, qui arrivent organisés en bande, avec des boules de plomb, avec des grosses matraques, etc. Et c'est vrai que les intellectuels n'ont pas l'habitude de manier ce genre de choses. Surtout qu'à l'époque, ils n'avaient pas de pratique politique, ces intellectuels. Ils n'étaient pas socialistes, ils n'avaient aucune pratique politique, encore bien moins communiste. Bon, pas davantage anarchiste, vous imaginez un intellectuel anarchiste, il y en a, mais ce ne sont pas ceux qui constituent les premiers cadres de la Ligue, même s'il y a des anards dans les premiers cadres de la Ligue. Donc, ils considèrent que pour pouvoir organiser un meeting, il faut le soutien des ouvriers, et on va s'adresser à ce moment-là à la Bourse du Travail. Et on demande à la Bourse du Travail de venir protéger le meeting tenu par les Dreyfusards. Il y a une vraie collaboration, une vraie coopération qui s'instaure dès le début, mais avec les risques d'une division du travail. Hein. Les ouvriers qui assurent l'ordre et les intellectuels qui parlent.
Alors à cette époque-là, Victor Bache est entré en socialisme.
Oui, il entre en socialisme à ce moment-là. Et enfin, entre en socialisme, c'est beaucoup dire. Il adhère, disons, au socialisme indépendant d'abord en 98, puis à la SFIO en 1905. Entrer en socialisme, ça serait trop dire parce qu'il ne s'est jamais défini prioritairement comme un militant socialiste. Il s'est toujours défini d'abord comme un intellectuel et parallèlement comme un Dreyfusard. Mais il adhère aux organisations socialistes et il assume, disons, cette position politique. C'est pas un Jaurès, je veux dire. C'est pas un intellectuel pour qui l'adhésion au socialisme est l'essentiel de sa vie.
Les émotions esthétiques auront une part importante dans la vie de Victor Bache, avec le culte de l'art, l'exaltation de la musique, de la peinture. C'est donc tout naturellement qu'il se préoccupe d'une culture pour tous. Christophe Charles.
C'est aussi une des originalités de cette période, c'est ce mouvement des universités populaires. C'est directement lié à l'affaire Dreyfus. C'est que les Dreyfusards se sont rendus compte que le peuple, en fait, sous la République, n'était pas forcément éclairé, n'avait pas forcément les bons réflexes, et que toute une partie des classes populaires, en fait, étaient les lecteurs de ces journaux antisémites, de ces journaux nationalistes, et de bonne foi d'ailleurs, l'idée que les étrangers prenaient le travail des Français, si vous voulez, c'est une idée qui est très répandue à l'époque. Donc il fallait essayer d'éclairer le peuple. On s'est aperçu que l'école primaire obligatoire, ça ne suffisait pas. Il fallait une culture supérieure pour que justement le peuple ne tombe pas dans cette xénophobie, dans ce racisme. Et donc il y a ce mouvement de création d'universités populaires. C'est un mouvement national, aussi bien à Paris que dans les villes de province. Et Victor Bache va être l'un des animateurs d'une université populaire à Rennes. Mais c'est très ambigu ce mouvement, puisque vous voyez, le mot université a collé au mot populaire, enfin ça pouvait choquer. Et en plus, ceux qui vont animer ça sont des gens qui ont un peu une vision pédagogique très, très classique, c'est-à-dire qu'ils vont imposer un peu une culture totalement étrangère à leur public, mais de façon tout à fait traditionnelle. C'est-à-dire en faisant des conférences, comme on faisait des conférences à des auditoires cultivés. Donc, sans se préoccuper du fait qu'il faudrait peut-être, avant de passer tout de suite à ce stade, créer des étapes. Enfin. Et puis, il y a aussi une conception très élitiste de la culture. Enfin, dans un des articles de Victor Bache, on peut lire l'idée qu'il est tout à fait contre la culture du café-concert, la poésie engagée. Enfin, lui, il veut que ce soit la grande culture qui aille au peuple.
Lui était un esthète.
Voilà, c'est ça. Il pense que le peuple a droit à la plus belle culture et qu'il n'y a pas de raison de faire de compromissions. Enfin, c'était vraiment un peu des maisons de la culture, en quelque sorte.
Et est-ce que ça fonctionne ?
Bah, pendant quelques années, oui, dans l'enthousiasme de l'affaire Dreyfus, dans l'enthousiasme de cette idée qu'il va y avoir un rapprochement entre les intellectuels et le peuple, ça marche. Enfin, il y a quand même une floraison d'universités populaires, donc ça correspondait quand même à un besoin. Toute une partie de l'élite de la classe ouvrière sentait que ce qu'on lui donnait comme culture dans l'école primaire était insuffisant. Donc. Mais bon, au-delà de cette élite, évidemment, on n'a pas touché une très très large population. Et puis même cette élite, elle s'est un peu fatiguée parce qu'elle en avait... Enfin, après des longues journées de travail, subir des conférences très savantes ou écouter des morceaux de musique classique, on n'est pas toujours en bonne condition. Enfin, c'est un problème qu'on connaît bien encore aujourd'hui. Donc l'enthousiasme est retombé relativement vite. Et puis il y avait aussi un côté politique, quoi. Il fallait un contexte favorable, un peu une espèce d'illusion lyrique. Et puis une fois que l'affaire Dreyfus est passée, bon, cet enthousiasme a disparu. Au moment du Front Populaire, il y aura aussi toute une effervescence culturelle, la fondation d'associations, de théâtre populaire, de cinéma populaire. Donc ça sera un peu le lointain descendant de ces universités populaires. On a eu le sentiment qu'avec l'affaire Dreyfus, se changeait un peu le rôle de l'universitaire. Pour la première fois, des universitaires sont intervenus collectivement dans un débat politique et ont essayé de jouer un rôle. Alors qu'avant, les universitaires restaient un peu dans leur tour d'ivoire, un peu en retrait. Sauf quelques exceptions de gens qui avaient des mandats politiques, mais la plupart étaient vraiment tout à fait en dehors de ces débats politiques. Donc l'université est devenue un enjeu politique. Et il y a tout un courant de pensée qui se développe dans ces années-là, notamment autour de l'extrême droite, ce qui va devenir l'Action française, pour dénoncer le rôle de la Sorbonne. Il y a notamment un livre qui paraît en 1911 qui s'appelle « L'esprit de la nouvelle Sorbonne » qui est rédigé par deux essayistes de l'époque qui ont comme pseudonyme Agathon et qui dénonce le fait que la Sorbonne est devenue une espèce de cheval de Troie de la science allemande, qui forme des érudits et qui abandonne complètement la culture générale. Donc vous voyez, on retrouve un peu le procès qu'on faisait déjà à Victor Bach à Rennes. Et Victor Bach est évidemment là aussi pas dans le collimateur de ces gens-là, puisqu'il vient d'être nommé à la Sorbonne en 1906. Alors c'est une Sorbonne donc qui est dénoncée comme étant à la fois un repère d'érudits et aussi un repère de théories pernicieuses, puisque c'est l'époque où Durkheim arrive à la Sorbonne, donc la sociologie universitaire, mais une sociologie qui veut être une morale, c'est-à-dire qu'elle veut former des gens qui seront de bons républicains. Et évidemment, pour l'extrême droite, c'est une idée tout à fait insoutenable, puisqu'elle pense que la République, c'est un germe de décadence, en fait. Lui, il est évidemment du côté de cette nouvelle Sorbonne. Et il est aussi visé par ces attaques, puisque en tant que juif, en tant que d'origine étrangère, il est assimilé à toute cette idée que la Sorbonne, c'est un repère de savants allemands, en fait. Et il est visé aussi par des chahuts pendant toute sa carrière. À certaines époques, il y a des chahuts dans ses cours. Mais il n'est pas le seul. Enfin, il y a toute une série de professeurs justement trop marqués qui sont aussi victimes de ces chahuts de l'extrême droite. Donc c'est vraiment un climat très passionnel encore dans ces années-là qui montre que l'université est vraiment devenue un enjeu politique.
En 1904, Victor Bach écrit une étude sur Max Stirner, l'individualisme anarchiste. Suivront des livres sur Emerson, Le Titien, Schumann, Carlyle. Mais c'est en 1896 que Victor Bach soutient sa thèse de doctorat. Elle est intitulée « Essai critique sur l'esthétique de Kant », complétée par une thèse sur la poétique de Schiller. Elisabeth de Fontenay.
La thèse sur Kant est un livre tout à fait inutilisable pour les agrégatifs qui se présenteraient à l'oral ou même à l'écrit avec un texte Kant au programme et en particulier ce livre tellement difficile qui est La critique de la faculté de juger. Mais c'est un livre tout à fait passionnant par sa liberté de ton, car d'entrée de jeu, Victor Bach se permet de dire que Kant s'est lancé dans une entreprise tout à fait non pertinente en voulant fonder le jugement de goût, en voulant chercher les principes qui rendent a priori et universel le jugement de goût. Et il accuse Kant d'être à la fois un éclectique, ce qui est très dur pour les Kantiens, un dogmatique, ce qui est encore plus dur pour les Kantiens, puisque Kant a voulu être un philosophe critique, c'est-à-dire antidogmatique. Et enfin, il l'accuse d'impérativisme en ce qui concerne la philosophie de l'art. L'établissement de principes a priori du sentir, de lois universelles et nécessaires du goût, m'a paru aussi impossible que peu désirable. De toutes les énergies de l'âme humaine, la sensibilité est la plus capricieuse, la plus volage, la plus instable. De toutes les manifestations psychiques, c'est la plus individuelle. L'individu est le plus vraiment lui-même quand il sent. Ce sont des plaisirs et des peines qui forment le tissu indélébile de notre moi. Dans les domaines de la connaissance et de la volonté, le sentiment nous apparaît comme un hôte importun contre lequel nous sommes constamment en garde, et dont nous ne parvenons que peu à peu à étouffer la voix. Il est une seule sphère où le sentiment reprend son ancien empire, la sphère esthétique, où nous ne supportons nulle contrainte. L'établissement d'un sens commun esthétique, comme Kant l'a rêvé, serait la mort de l'art. Et le passage de la réflexion sur la critique de la faculté de juger de Kant à une réflexion sur Max Stirner comme anarchiste, comme individualiste anarchiste, est presque logique. Enfin, c'est une consécution d'œuvres tout à fait rigoureuses. C'est précisément parce qu'il a vu apparaître dans la philosophie de l'art ou la philosophie du beau cette formidable pulsion du désir et du plaisir du beau, aussi bien pour celui qui crée que pour celui qui en jouit, qu'il refuse cet impérativisme que Kant a voulu placer comme condition a priori du jugement de goût.
Musique.
Alors de chargé de cours qu'il est en 1906, il deviendra professeur adjoint, puis professeur. Et c'est en 1928 qu'on va créer pour lui une chaire d'esthétique.
Oui. Alors la chaire d'esthétique, c'est intéressant puisqu'on voit que c'est une nouvelle discipline qui est introduite dans l'enseignement supérieur. C'est une discipline qui rompt les barrières classiques, c'est-à-dire qu'elle est à la fois liée à l'histoire de l'art, d'un certain point de vue, et aussi à la philosophie. Donc c'est la rupture entre des clivages anciens. Alors pourquoi est-ce que Victor Bach est particulièrement bien placé pour ça ? Bien parce que déjà par le sujet de sa thèse, qui portait sur l'esthétique de Korn, donc... Par sa culture allemande, puisqu'évidemment il est très musicien, il pratique le piano et en même temps il est très au courant de toute l'actualité musicale, enfin il va régulièrement à Bayreuth par exemple. Et puis en même temps, bon, l'esthétique c'est un peu lié à cette idée que la culture doit descendre dans la population, et donc en analysant ce processus culturel, on peut mieux comprendre comment on peut faire la diffusion de la culture dans la population en général, puisqu'en comprenant le mécanisme de création esthétique, on peut peut-être le faire mieux partager par des gens qui sont moins favorisés culturellement. Et par exemple, dans ses cours, on raconte qu'il avait une pédagogie assez novatrice, puisqu'il ne se contentait pas de faire un cours oral à base de notes, mais par exemple, il analysait des morceaux de musique en interprétant lui-même pendant le cours. Donc vous voyez, c'était une pédagogie très active et novatrice.
Toute la musique schumannienne n'est qu'une grande sehnsucht inassouvie. Jamais elle ne s'élève d'un seul élan, s'élargissant, se développant, s'épanouissant selon la loi de son germe sonore, planant, sur d'elle-même, libre, large, pour revenir à son point de départ en décrivant une belle courbe molle, comme un oiseau qui, après avoir nagé dans les airs, redescend doucement vers son nid. Rare, subtile, insolite, elle jaillit du plus profond de son être, mais ne s'en détache que laborieusement, douloureusement, par lambeaux, si bien que c'est avec une secrète blessure qu'elle entreprend son vol. Aussi la ligne qu'elle décrit est-elle brisée, tourmentée, convulsée, pleine de heurts, de sursauts, de retraits et d'arrêts, fiévreusement secouée de frissons, en lutte non seulement avec des forces extérieures qui l'entravent, mais avec les éléments divergents de sa propre substance. Prenez l'une des plus belles mélodies de Schumann, par exemple, la phrase initiale de la fantaisie, opus 17. À peine posée, elle se suspend, descend, est à nouveau retardée, prend un nouvel élan, s'élève avec des heurts et des halètements pour être de rechef arrêtée. Puis elle s'arrête elle-même en montant d'un ton, se déchire par un soupir, et par un beau et souple mouvement répété, revient à son point de départ. Ensuite, elle reprend, s'adjoint un autre thème, redisant la même plainte, mais d'une voix plus fervente et plus humble. Monte en saccade chromatique, passe de l'appassionato à l'adagio pour s'épanouir dans l'angoisse, cette fois clairement exprimée, de cette question, adressée incessamment par la main quiète de Schumann au destin et à sa propre âme, que nous retrouvons avec la même inflexion et la même arabesque dans tant de ses œuvres, et dont se souviendra Wagner dans Tristan. Victor Bach, Schumann, 1926.
Il s'est laissé tenter par deux démons. Le démon du panthéisme, et c'est toute sa réflexion sur l'art, et le démon de l'individualisme anarchiste, et c'est l'origine de sa réflexion sur la politique. Il s'est laissé tenter par ces deux démons, il a résisté à l'un par l'autre et à l'autre par l'un. Et ce qu'il a tenté dans l'individualisme anarchiste, c'est d'une part que s'y épanouit, lui semble-t-il, en 1904, les droits du créateur, les droits du seigneur. Quel artiste ? De l'aristocrate, quel artiste ? Et en même temps, je crois, déjà, une réflexion politique pour les droits de l'homme, pour la justice. Mais ce qui est très intéressant dans son œuvre, c'est la manière dont il mène de front cette réflexion sur la liberté dans l'art et cette réflexion sur la liberté dans la politique. Et bien entendu, ces deux libertés se contrarient, bien entendu. Mais il n'a pas sacrifié l'un à l'autre ou l'autre à l'un. Et c'est ça qui fait de son œuvre quelque chose de très original. En fait, je dirais que Victor Bache, même s'il ne le dit pas en ces termes, a réfléchi toute sa vie très profondément sur les équivoques du romantisme et sur les équivoques de l'âme allemande. Alors, est-ce qu'il faut parler de bonne Allemagne et de mauvaise Allemagne? Est-ce qu'il faut parler de la bonne Allemagne qu'il a nourrie et qu'il a transmise aux Français et de la mauvaise Allemagne qu'il a assassinée? Nous ne pouvons pas nous permettre de parler comme ça, puisque ce sont des Français qui l'ont assassiné. Il y a chez lui, qui est un contemporain de la fin de Nietzsche et du début de Freud, des intuitions nietzschiennes et freudiennes au sujet de l'inconscient, qui sont tout à fait remarquables et qui vont tout à fait dans la ligne, me semble-t-il, de cette méditation sur la sensibilité allemande, enfin sur le rapport de la sensibilité et de la raison dans la pensée allemande et dans l'art allemand. Il se dit à certains moments dans son œuvre, et très tôt, dès la thèse sur Kant, il se dit panthéiste, c'est-à-dire voulant mettre l'esprit en contact avec les forces primordiales, qui sont les forces du sentiment et qui sont l'expérience du sublime. Ce panthéisme est celui d'une tête et d'un cœur très allemand, mais une tête et un cœur allemand qui s'expriment dans une langue qui était celle à l'époque de l'obligation démocratique et de la justice, et qui est la langue de la Révolution française.
Alors, à partir du moment où Victor Bache est entré au comité central de la Ligue, il va avoir à s'occuper de grandes affaires.
Oui, la Ligue est née d'une grande affaire et elle continue à construire une partie de son audience sur d'autres affaires qu'elle prend à charge. C'est le cas, par exemple, à partir de 1907, donc Victor Bache est un membre du comité central, pour deux affaires importantes. L'une, c'est ce qu'on a appelé l'affaire Ferrer. C'est les premières condamnations d'un Espagnol d'origine catalane qui est un immense spécialiste de la pédagogie, d'option libertaire, anarchiste, bien, et qui, après deux ans, pendant lesquels il est inquiété constamment, finit par être littéralement assassiné en 1909, condamné à mort dans un procès qui n'en est pas un, qui est une véritable parodie de procès en 1909. Et Bache a fait énormément, dans le cadre de la Ligue, pour empêcher que Ferrer ne soit assassiné, et après son assassinat, pour contribuer à l'organisation d'une immense protestation mondiale contre l'assassinat de Ferrer. Et puis il y a, trois ans après, en 1910-1911, la condamnation à la prison à vie d'un ouvrier du Havre qui s'appelle Durand. Il y a une pièce de théâtre qui sera écrite par Salacrou à son sujet, l'affaire Durand, et la Ligue des droits de l'homme a pris en charge, et Bache y est un peu investi également, la campagne pour faire reconnaître l'innocence de Durand, qui était conduite prioritairement par les syndicats et par la SFIO, mais à laquelle la Ligue s'est associée. Puis alors, après la Première Guerre mondiale, vous avez des affaires qui acquièrent très vite un renom international. C'est le cas pour la condamnation à mort des anarchistes italiens Sacco et Vanzetti aux États-Unis. Et la Ligue a énormément milité, et Bache aussi, pour que cette condamnation soit commuée. D'abord qu'ils ne soient pas condamnés, puis une fois la condamnation faite, pour qu'elle ne soit pas exécutée. Elle l'a été par les Américains. Vous savez que c'est des spécialistes quand même de la peine de mort. Et d'autre part, vous avez des affaires qui sont des affaires alors françaises, dont l'une d'entre elles, qu'on appelle l'affaire Seznec, née de la condamnation à la déportation à vie d'un Breton. Seznec qui est condamné en 1923 au terme d'un procès qui a été dès le départ contesté par une partie des membres du jury. Et la Ligue s'investit dans cette affaire à partir de 1931. Il y a à ce moment-là une section qui se crée dans la ville même où avait vécu Seznec. Et la Ligue ne parviendra pas à empêcher Seznec de rester en déportation. La Ligue essaye de faire en sorte qu'il soit gracié, réhabilité. Et le dossier de la réhabilitation de Seznec n'a pas encore abouti aujourd'hui. Et la Ligue des droits de l'homme continue à s'en occuper.
En 1914, Victor Bache a 51 ans. Pacifiste, il l'est et le sera toujours. Cependant, à l'intérieur de la Ligue, on se déchire en deux courants, les pacifistes intégraux et ceux qui sont pour une défense nationale. Daniel Lindenberg.
Victor Bache, évidemment, est un peu pris comme beaucoup d'intellectuels de gauche, de socialistes, socialisants, anarchisants de son temps. dans une contradiction entre, si vous voulez, son amour de la paix, qui est réel. Je crois qu'on ne peut pas... Babache est tout à fait le contraire d'un belliciste. C'est quelqu'un qui instinctivement est du côté de la paix, pour des raisons, je crois, qui sont tellement évidentes, on n'a pas besoin de les dire. Son humanisme, son amour de la vie, de l'art. Mais d'autre part, Victor Bach raisonne politiquement par rapport à ce qui est pour lui la préoccupation quand même aussi essentielle, savoir comment en Europe, et dans le monde, mais il s'agit de l'Europe, comment en Europe on peut achever l'œuvre de la Révolution française. Parce que Victor Bach est un inconditionnel des principes de 89 et de l'œuvre des révolutionnaires, jacobins compris. Et il a constaté, mais déjà avant 14, comme un certain nombre de gens qui sont à la fois des socialistes et des germanistes. C'est-à-dire, on peut citer Charles Andler, qui sera son maître dans les études germaniques, Lucien Herr, etc. Toute une école donc, de gens qui sont réellement de grande qualité, qui a deux Allemagnes. C'est-à-dire, ça, c'est une thèse qui leur vient des suites de la guerre de 70 et du bismarckisme. C'est-à-dire que, culturellement, l'Allemagne ou le monde germanique est ce qu'il y a de plus avancé en Europe. C'est-à-dire que Bach fait partie de ces gens pour qui la culture est avant tout, on a cité la musique tout à l'heure, la philosophie est allemande, l'esthétique est allemande, etc. Et puis même la civilisation, enfin la plus avancée sur le plan juridique, sur le plan de l'organisation de l'État, ça vient d'Allemagne. Bon, ceci étant dit, l'Empire allemand, tel que Bismarck l'a fondé, représente... au cœur de l'Europe, une formation tout à fait régressive, liée à l'ancien régime, à la féodalité, qui se traduit par le militarisme allemand. Et ces gens-là, à tort ou à raison, pensent que c'est un danger pour la civilisation, pour la liberté. Et de ce point de vue, donc, il y a une discussion justement avec Jaurès, parce que Jaurès reste persuadé, lui, Jaurès, au fond, ne voit que le côté, si vous voulez, progressiste de l'Allemagne, en particulier lié au phénomène de la réforme, c'est-à-dire que Jaurès, dans sa lutte contre l'Église catholique, pense que l'Allemagne c'est mieux parce que l'Allemagne est protestante, pour résumer. Bon. Alors donc, finalement, il reste attaché à l'idée d'une paix européenne qui serait celle d'une entente franco-allemande, quel que soit le régime de l'Allemagne, parce que Jaurès croit qu'à l'intérieur de l'Allemagne impériale, la social-démocratie avance, etc. Alors des gens comme Bach ou comme Andler sont moins confiants, et c'est pour ça qu'ils avancent la thèse des deux Allemagnes, c'est-à-dire l'Allemagne culturelle qui est progressiste et l'Allemagne politique impériale qu'il ne faut pas hésiter à combattre si elle nous menace, nous les Français, etc. Et donc, ce qui explique que Bach, malgré son pacifisme foncier, va se rallier à l'Union sacrée. Et en particulier, il va écrire la guerre et le droit, il fait un certain nombre de conférences, il accepte même des missions, etc. Parce que, si vous voulez, c'est sa manière à lui, je crois, de rendre à la France aussi ce qu'elle lui a donné, c'est-à-dire non seulement la nationalité française, mais aussi une place éminente. Là, on n'a pas parlé de l'affaire Dreyfus dont d'autres parlent, mais je crois quand même qu'il faut rappeler que pour Bach, sa prise de position dans 14-18, c'est la suite du combat pour la justice et la vérité. Et donc, il se sent pas du tout, si vous voulez, belliciste en faisant ça. Il défend, enfin, sincèrement, la patrie du droit. Il pense que la France a raison, etc. Alors, évidemment, c'est tout le débat parce que beaucoup d'autres intellectuels proches de lui le contestent.
Et puis, il y a quand même, il est touché personnellement puisque son fils est médecin et il est mobilisé sur le front.
Christophe Charles.
Et dans un de ses livres, il va écrire une longue lettre à son fils, je ne sais pas si elle a été vraiment envoyée, mais du moins elle a été publiée, où il lui explique un peu son cheminement intellectuel. Alors d'abord, sa première réaction, ça a été un peu une réaction de prostration, quoi, comme après un grand choc. Et il a essayé, comme il dit, de s'abêtir en travaillant à des choses infimes, en étant un petit employé. Il a notamment aidé les soupes populaires, il a fait partie d'un service qui allait annoncer aux parents la mort de leurs enfants, etc. Donc des tâches infimes, mais où il avait l'impression d'être solidaire de ce grand élan de défense nationale. Et puis il s'est rendu compte quand même qu'il avait peut-être mieux à faire, et alors il a pris la plume, comme il a dit, et il écrit des articles pendant toute la guerre de défense nationale, de mobilisation de la population pour remonter le moral à la fois aux civils et aux militaires. Donc des choses qui, évidemment, si on lui avait dit qu'il ferait ça 3 ans avant, il aurait dit non, c'est pas possible, je vais pas être belliciste, je vais pas pousser les gens à la guerre. Mais là, dans cette circonstance exceptionnelle, il a considéré que c'était son devoir d'être du côté de l'Union sacrée.
En 1915, il entreprend un voyage aux États-Unis.
L'idée, c'est qu'il faut qu'absolument les États-Unis aident les alliés. Et donc, on envoie de grands universitaires pour essayer de prêcher la cause des alliés et faire que les États-Unis sortent de leur isolationnisme et prennent parti du côté des démocraties. Et donc, Victor Bache est l'un de ceux qui va essayer de prêcher la bonne parole. Et il va le faire dans le cadre de l'exposition de San Francisco, donc de 1915. Et ce voyage va être pour lui une expérience importante parce qu'il va notamment rencontrer les importantes communautés juives qui existaient aux États-Unis, notamment à New York. Puisque les juifs de Russie, qui étaient victimes de persécutions antisémites à la fin du 19e siècle, avaient émigré en masse aux États-Unis pour y trouver une terre d'accueil. Évidemment, c'était très difficile à Victor Bache d'expliquer pourquoi il fallait quand même prendre parti pour les alliés, alors qu'on savait bien que ces alliés étaient alliés à la Russie, et la Russie c'était la terre de l'antisémitisme. Donc dans ses conférences, il va essayer de montrer que malgré tout, il fallait espérer que la Russie allait elle aussi un jour être dans le bon combat et qu'elle n'allait pas être éternellement la terre de l'antisémitisme. Et alors son argument principal, c'est qu'en fait, l'inventeur de l'antisémitisme, c'est l'Allemagne, puisque il y a une politique systématique d'antisémitisme en Allemagne, que les théoriciens de l'antisémitisme sont des Allemands, et que donc on peut espérer que la Russie, elle, finira par sortir de son obscurantisme, alors que pour les Allemands, c'est une politique officielle et systématique.
La Ligue est le lieu d'accueil de tous les réfugiés d'Europe. Avec la FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme, c'est un appel à la fraternité entre tous les peuples qui est lancé. Luigi Campolonghi, militant socialiste, journaliste et écrivain antifasciste, réfugié en France, est mort en 1944 sans avoir vu la libération définitive de son pays. La rencontre avec Victor Bache se fait dans le salon politique de Madame Ménard d'Orient, celle-là même qui inspira Proust. Victor Bache prend en charge Luigi Campolonghi et sa famille et naît entre eux une solide amitié. Lydia Campolonghi.
Une solide amitié en même temps de l'admiration de la part de mon père pour la mission d'écrivain qu'avait d'historien de Bache, parce qu'il avait par exemple écrit un livre sur Schumann qui était très beau. Il y avait des liens spirituels entre mon père et lui. Alors Bache, par exemple, par solidarité pour les Italiens qui ne pouvaient pas retourner en Italie pour ne pas aller en prison, avait renoncé à aller faire un voyage à Venise pour voir les Tintorets, parce qu'il ne voulait pas aller dans un pays où les antifascistes ne pouvaient pas vivre.
Votre père, lui, va fonder la Ligue italienne des droits de l'homme en exil.
Oui, mais avant de fonder la Ligue des droits de l'homme, il a donné ses démissions des journaux, n'est-ce pas? Et alors, il a loué des terres dans le sud-ouest en pensant devenir agriculteur. Et c'est là que les Baches sont venus faire un séjour de 8, 10, 15 jours, je ne me souviens plus. Et alors Bache en a profité pour tenir des conférences avec mon père dans la région, mais en même temps il se reposait dans ce château qui n'avait pas le confort moderne, mais qui était un très beau, très château de Doisans. Et puis le château était devenu un peu célèbre sur le plan politique parce qu'il y avait eu le premier congrès de la Ligue italienne des droits de l'homme. Là, alors étaient venus de tous les côtés de France, et puis des Français et des Italiens pour assister à ce congrès.
Victor Bache va aider votre père, qui a bien des difficultés, pour faire vivre sa petite famille.
Oui, d'abord on m'a prise, moi, comme employée dactylo à la Ligue des droits de l'homme. Et puis, du côté de maman, non, maman percevait de l'argent du côté italien, par les antifascistes italiens. Mais elle avait son bureau à la Ligue, rue Jean Dolan. Elle aussi, donc nous étions toutes les deux là. Et mon père, alors, était devenu délégué permanent de la Ligue française des droits de l'homme. Et alors on l'envoyait dans les endroits les plus reculés, les plus perdus.
Lydia Campolonghi, vous avez donc été dactylo à la Ligue des droits de l'homme, à l'époque où Victor Bache en était le grand patron,
dire. Oui, donc il n'y avait pas de rapport entre nous, naturellement. Non, il n'y avait pas de rapport entre nous. Moi, j'admirais beaucoup Bach et il lui était très gentil avec moi, surtout qu'il était venu chez nous, il était charmant, sa femme était charmante.
Alors, il y avait beaucoup d'admiration et de respect, je suppose, dans ces bureaux de la Ligue des droits de l'homme.
Oui, beaucoup de... Parce qu'il y avait un bureau qui était réservé, un bureau ou deux, je ne sais plus, qui était réservé à la Ligue italienne. Maman avait son bureau, et après la guerre, elle est retournée le voir, ce bureau. Parce qu'elle était très émue d'avoir travaillé là et tout. Et moi aussi, j'étais émue. C'était... Oui.
27 rue Jean Dolan, Paris 14e, au siège de la Ligue des droits de l'homme, en compagnie de Bernard Vallon.
On va monter au premier étage, peut-être. Hein. Vous avez là donc un secrétariat, une salle d'attente et une salle de réunion, des services. Donc, cette maison vient d'être rénovée, donc la fonction des lieux a évidemment évolué, des différentes salles en particulier. Et là, on va aller dans le bureau du président de la Ligue des droits de l'homme aujourd'hui, où on va revoir un certain nombre de documents qui disent un peu l'histoire de la Ligue.
Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme souvenir de Victor Bach dans cette maison ?
Alors, dans cette maison, on ne retrouve pas beaucoup de souvenirs de Victor Bach. Tout ce qui est antérieur à 1940 a été détruit ici. Hein. Lorsque les nazis sont venus s'installer le jour de l'entrée des Allemands dans Paris.
Et c'est cependant un lieu où on peut travailler. Je veux dire, vous avez quand même suffisamment d'archives.
Oui, alors on peut travailler, ne serait-ce parce que les cahiers des droits de l'homme, qui s'appelaient antérieurement les bulletins officiels de la Ligue des droits de l'homme, jusqu'en 1920, sont des documents extraordinaires. Il y a d'abord un index à la fin, donc c'est très pratique pour la recherche. Ensuite, il y a effectivement beaucoup de matériaux, de grands textes, de grands discours dedans. Il y a aussi les comptes rendus sténotypiques de tous nos congrès, alors toujours avec un index. C'est donc un instrument de travail formidable. Déjà, il y a ça. Et puis, il y a aussi ce qui se reconstitue peu à peu, ou ce qui se reconstituera, davantage de documents après la guerre.
Hein, est-ce qu'on peut peut-être descendre...
À la cave qu'on a aménagée en lieu de documentation et en lieu d'archives. En fait, on est un peu comme toutes les associations, c'est-à-dire assez peu soucieux de nos archives, puisqu'on est pris dans l'action.
Donc, c'est pourtant très important.
Oui, c'est pourtant très important, mais pendant longtemps, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une attention vraiment soutenue. Oui. Sur les conditions dans lesquelles on les constituait et dans lesquelles on les conservait. Donc là, avec la rénovation à l'occasion du bicentenaire de 89, on a quand même fait un petit effort pour qu'on puisse installer au moins la documentation que vous voyez ici, qui est une documentation vivante, et puis, peu à peu, réunir les archives et les reclasser un petit peu. Hein.
Vous avez des chercheurs, des universitaires qui viennent travailler ?
Hélas, il y a... à mon goût, trop peu de recherches qui ont été faites, notamment sur les présidents de la Ligue des droits de l'homme. C'est invraisemblable que Victor Bach n'ait pas fait l'objet d'une thèse, ou ne serait-ce que la partie Victor Bach et le Front populaire, ou sa partie présidence de la Ligue des droits de l'homme. Mais il en va de même pour Francis de Pressensé, pour Ludovic Trarieux, le fondateur de la Ligue des droits de l'homme, même pour Ferdinand Buisson, je ne crois pas qu'il y ait grand-chose sur lui. Il y a quand même des recherches qui se sont faites depuis 5-6 ans. Il y a un travail sur Gernut qui a été un long secrétaire général de la Ligue des droits de l'homme, juste à la veille du Front populaire, qui a donc travaillé avec Bach, Henri de Gernut. Il y a également des travaux sur les femmes et la Ligue des droits de l'homme, qui ont été faits par des étudiants à Sciences Po, sur la Ligue des droits de l'homme et les intellectuels pendant la guerre d'Algérie, sur la LORS, la Ligue d'Action Universitaire Républicaine et Socialiste, qui était une organisation à laquelle Pierre Mendès France a appartenu, d'ailleurs comme il a appartenu à la Ligue des droits de l'homme, une organisation qui avait pas mal de liens avec la Ligue des droits de l'homme. Il y a eu d'autres recherches de fait sur le comité central de la Ligue des droits de l'homme depuis 1958 à nos jours, sur la Ligue et les indigènes, enfin et la politique indigène, avant la guerre 14-18.
Est-ce que Victor Bach est connu ? Par exemple, vous avez du public qui vient ici.
Non, Victor Bach, à mon avis, est très mal connu en dehors du secteur des universitaires ou des gens qui ont un peu une culture historique. C'est très dommage qu'une grande figure des droits de l'homme, bon, parce que ça a été un très long président de la Ligue des droits de l'homme et un très grand président de la Ligue des droits de l'homme, mais aussi un grand universitaire, c'est un homme qui est finalement assez peu connu. Bon, quand même, c'est peut-être un petit peu à la capacité d'hommes comme Victor Bache, Émile Kahn, Henri Guernut, à rassembler les associations, les partis politiques, les syndicats, pour réagir en 1935, le grand rassemblement du 14 juillet 1935, puis dans l'élaboration du programme de Front populaire. C'est un peu dommage qu'on ait complètement oublié une figure à laquelle, à la limite, on doit nos vacances et nos congés payés. Hein. Quand on part, personne ne vous dira « je pense à Victor Bache », enfin, sans demander ça de façon symbolique. Et il y en a bien d'autres, mais enfin, Victor Bache, c'est sans doute ce qui est le plus injuste. Et en 1986, il a fait l'objet d'un timbre. Mais autrement, voilà, les seuls souvenirs un petit peu grand public qu'on a de Victor Bache. Des rues aussi, quelquefois.
Vous avez fréquenté Victor Bache et sa femme d'une façon un petit peu plus intime dans ce château de Lot-et-Garonne. Comment vous apparaissait-il ?
Oh, comme un grand monsieur. Un grand monsieur, un monsieur important et sérieux. Sévère avec lui-même, sévère avec les autres, enfin, oui.
Est-ce qu'il pouvait être gay ?
Je ne dis pas qu'il était gay de nature, non. Je ne dis pas. Mais il était ironique, justement, quand il reparlait de... quand on avait failli le jeter à l'eau au temps de l'affaire Dreyfus, il s'en amusait de ça, n'est-ce pas ? Il était, non, mais c'était vraiment l'universitaire sérieux, posé, pondéré. Et puis alors, il était content de pouvoir aider les gens qui n'avaient pas les idées fascistes, n'est-ce pas, naturellement.
Vous avez accompagné votre père au cours de ses conférences.
Alors, certaines, je ne sais pas s'il y a une ou à plusieurs, en tout cas je me souviens d'une qui était sur les bords des Rhin et du Rhin, et de l'autre côté du Rhin, il y avait les fameuses grandes affiches « Ein Volk, ein Reich, ein Führer ». Alors ça nous impressionnait terriblement. Nous avions été sur le pont de Kehl, et puis Bache... et une partie de l'équipe, mais moi je ne crois pas que j'y sois allé, était allé voir aussi la ligne Maginot, inspecter la ligne Maginot, oui, là. Oui, de ça je me souviens qu'ils y étaient allés.
Profil perdu, Victor Bache, première émission par Anis Clément, avec Madeleine Reberioux, Elisabeth de Fontenay, Lydia Campolonghi, Daniel Lindenberg, Christophe Charles, Bernard Vallon. Merci à Françoise Bache pour sa participation à l'élaboration de cette émission. Texte dit par Jean d'Autremet. Mixage, Josette Etier, Françoise Prudon. Réalisation, Arlette Dave.
Cette émission a été diffusée la première fois le 7 mars 1991 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.